Donc voilà, vous savez tout sur pourquoi les conférences de consensus et quelle est notre démarche. Et donc là, la seconde question qui nous paraissait importante pour débuter ces deux journées de séance publique, c'était pourquoi nous nous sommes attachés à cette thématique du redoublement. Alors, c'est une question qui nous est souvent posée, il y a un petit peu d'interrogation. Et finalement, comme le disait Michel, on a un petit peu hésité, mais l'actualité nous a rattrapés sous forme de décret. Donc on voit bien que ces séances étaient tout à fait nécessaires. Alors, qu'est-ce qui fait le choix d'une thématique pour une conférence de consensus? Il y a, je crois, trois éléments qui nous ont poussés à choisir le redoublement. Tout d'abord, premier ingrédient d'une bonne conférence de consensus, c'est une recherche de qualité. Évidemment, il n'y a pas de conférence de consensus si on n'est pas en capacité à mobiliser un large champ de recherche. Le deuxième élément, c'est qu'il s'agit, en ce qui concerne le redoublement, d'une pratique que je dirais controversée, c'est-à-dire qu'elle est encore extrêmement présente, mais on voit bien qu'on en discute, et les enquêtes de terrain qu'on a pu mener grâce aux étudiants du master Mados sur le terrain, dans les académies, dans une vingtaine d'académies, montrent que, en fait, dans les salles de professeurs, c'est un sujet qui, aujourd'hui, est l'objet de discussions importantes. Donc, il nous semblait intéressant, évidemment, de pouvoir apporter des ressources intellectuelles à ces interrogations. Et puis, on l'a choisi aussi parce qu'on s'est dit que, au regard de ce qui se passait, notamment de la baisse très importante du redoublement sur les 10 dernières années, il était bien en train de se passer quelque chose et qu'il y avait déjà une première mutation des pratiques et des représentations autour du redoublement. Et donc, il allait finalement s'agir d'être un petit peu à la marge, d'apporter des choses nouvelles, mais que les esprits étaient déjà dans une perspective de changement. Donc, ces trois points, vous voyez d'abord un champ disciplinaire riche. Alors, vous allez le voir durant ces deux journées. On a la chance d'avoir toute une série d'universitaires, d'experts. Vous avez vu que le programme est extrêmement riche. Donc, le temps va être compté. Il va y avoir des interrogations du jury. Il va y avoir certaines questions aussi que vous pouvez poser aux experts, certaines questions du public. Mais sachez que dans le modèle de la conférence de consensus, le public n'est pas, je dirais, hautement participatif. C'est-à-dire que dans une conférence de consensus, ce public sert de témoin. Il sert principalement à pouvoir, après l'écriture des recommandations, dire « bah oui, nous y étions » et « oui, nous avons entendu des experts aborder ces points-là ». Mais nous avons quand même souhaité pouvoir entendre vos questions et donc, vous pouvez les faire passer sous forme notamment de petits mots écrits et elles seront analysées à certains moments cruciaux de la conférence. Donc vous voyez un beau panel de recherche un beau panel d'experts parce que nous sommes vraiment sur un champ qui a été largement travaillé par la recherche, qui est pluridisciplinaire, sociologue, économiste, psychologue, sciences de l'éducation, donc c'est extrêmement riche. Et vous le verrez, des recherches qui se sont réellement réactualisées dans les années 2000. Et donc, vous aurez des surprises, parce que parfois, on reste sur certains résultats un peu anciens de recherche. Et notamment, les économistes et le CNESCO et l'IFE ont fait une belle synthèse de l'ensemble de ces recherches. Les économistes ont jeté quelques troubles dans le cadre de ces recherches. Donc, vous allez avoir quelques surprises, je pense, pendant ces deux premières journées. Deuxième raison du redoublement, je vous ai dit une pratique controversée, c'est ce qu'on a pu réellement voir sur le terrain. Alors, ça demeure une pratique massive en France, comparativement à ce qui se passe à l'étranger. Là, vous avez sous les yeux les données de PISA où on voit que quasiment un tiers des élèves à 15 ans ont redoublé au moins une fois. Donc, on est encore quasiment champion des pays de l'OCDE pour le redoublement. Donc on voit bien que c'est fortement encore ancré dans les pratiques. Cette moyenne, 30% environ d'élèves qui redoublent, cache en fait de très grandes disparités. Donc il y a des vraies interrogations à porter sur les inégalités, les experts vont revenir plus en détail sur ces points-là, les inégalités dans le redoublement. On a 82% des élèves qui rentrent en CAP, en première année de CAP, qui ont redoublé. Donc vous voyez que c'est considérable. Et évidemment, les CAP accueillent les publics les plus défavorisés. Donc de très fortes inégalités qui, évidemment, posent cette pratique comme largement controversée. On a différents visages aussi du redoublement. Et ça, c'est certainement un point que le jury devra traiter. Il y a, dans les premières années, au primaire, un redoublement qui est lié à les difficultés scolaires. Mais lorsqu'on a regardé sur le terrain les redoublements de troisième et de seconde, en particulier, il s'agit plutôt de redoublements liés à l'orientation. Donc on voit bien là qu'on a des natures complètement différentes. Et toujours en termes d'inégalité, le CNESCO a pu montrer dans la perspective d'autres analyses qui vous seront aussi présentées que, évidemment, on retrouve en fait toute une série de caractéristiques liés au redoublement. Le redoublement n'est pas distribué de façon totalement aléatoire. Les garçons redoublent plus que les filles, les élèves issus des milieux les plus favorisés redoublent plus que ceux de milieux favorisés, etc. Mais tout cela va vous être présenté par nos experts durant la première journée. Alors, des pratiques et des représentations qui changent, ça c'est vraiment le point qui nous a poussé à choisir cette pratique du redoublement. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, pour des conférences de consensus, c'est bien d'avoir de la recherche, c'est bien d'avoir du débat, donc on sent que les praticiens ont besoin d'éléments un peu stabilisés, mais c'est bien aussi de choisir une thématique sur laquelle on pense que, assez rapidement, comme le disait Michel, ces ressources intellectuelles nouvelles, en association avec Canopée, avec les ZEN, à travers des parcours d'information, de formation, toutes ces ressources vont pouvoir changer les représentations et donc finalement les pratiques des acteurs. Donc on a vraiment choisi une thématique sur laquelle il y avait déjà des acteurs en mutation. Ces mutations, on les voit dans les pratiques, puisque vous voyez qu'il y a une forte baisse du redoublement depuis une dizaine d'années. Ça s'accélère depuis 5 ans et ça touche l'ensemble des niveaux scolaires et ça touche l'ensemble des niveaux d'enseignement. Donc il se passe bien quelque chose, et quand il se passe quelque chose, on est allé du coup voir sur le terrain, on a trouvé beaucoup de politiques qu'on pourrait appeler de pilotage par les résultats, en ce sens où on a demandé aux acteurs de terrain et ben finalement de baisser les taux de redoublement sous forme quelque peu d'injonction, et ces acteurs de terrain nous ont dit oui, nous on commence à comprendre qu'il faille évoluer dans cette pratique du redoublement, mais on demande de solutions alternatives. Et donc ça, ce sera certainement un des défis du jury, que de poser un constat sur le redoublement, mais également à travers des recherches, à travers des comparaisons internationales qui leur ont été soumises, de pouvoir aussi donner quelques orientations pour le futur. Ces croyances autour du redoublement, elles sont en train d'évoluer. Lorsqu'on regarde tout de même les sondages et les enquêtes de terrain, et les différents experts reviendront là-dessus, les enseignants en France demeurent fortement attachés au redoublement, les parents également, et les élèves, vous allez voir quelques résultats là, de recherche également. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, tous ces acteurs, et on le retrouve dans tous les sondages d'opinion, lorsqu'on demande aux gens, est-ce que une pratique qui est extrêmement commune dans votre système éducatif, est-ce que vous la supprimez, que ce soit le redoublement, mais aussi, par exemple, les notes? Tous les acteurs disent « Ah ben non, surtout, on ne change rien ». Mais ce qui est intéressant dans ces enquêtes, et vous verrez plus en détail celle sur la perception des collégiens et des lycéens, c'est que lorsqu'on dit « Mais si on faisait autre chose que des notes, si on faisait autre chose que du redoublement, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et là, on a aussi une tout aussi forte adhésion à des solutions alternatives. Donc sur les enseignants, fort attachement, parce qu'on pense que l'élève progresse l'année de son redoublement, et c'est vraiment le cas, c'est ce qui sera montré dans certaines recherches récentes, mais je ne dévoile pas plus ce qu'il en est des effets pédagogiques du redoublement sur le moyen terme. Mais ce qui est aussi important pour le jury, c'est que s'il y a cet attachement des enseignants, et ce sera redéveloppé, c'est parce qu'aussi il y a ce qu'on appelle des fonctions latentes. Le redoublement sert aussi à réguler les classes. Le redoublement reflète aussi des manques de transition entre les niveaux scolaires. Donc je pense que tout ça devra être intégré dans la réflexion du jury. Les parents, je dirais, un attachement qui perdure, là encore, quand on leur demande est-ce que vous voulez supprimer le redoublement, non à 70%. Vous voyez qu'il y a des différenciations très fortes hein, selon les catégories socioprofessionnelles. C'est-à-dire lorsqu'on leur dit « Est-ce que vous êtes favorable à la suppression du redoublement ?» Ici, il s'agit d'un sondage récent de l'IFOP. Vous avez quand même, parmi les familles les plus favorisées, quelques 40% de gens qui disent « oui ». Donc on voit bien que ces parents, d'ailleurs quand on parle de parents, l'exception est fausse, hein, il y a une multiplicité de parents, on voit déjà que ces parents sont en train d'évoluer progressivement. Vous voyez que, comme je le citais, là encore ce sondage de l'IFOP, lorsqu'on leur demande s'ils souhaitent des mesures alternatives, on a 80% des gens qui disent « oui ». Si on le supprimait, si on le remplaçait par d'autres mesures plus efficaces et plus adaptées, oui, je soutiens ce type d'option. Donc, vous voyez toujours l'ambivalence, hein, adhésion, redoublement, mais c'est déjà en train de changer. Je crois que c'est important pour nous. Il y avait un manque réel d'analyse concernant les élèves et la perception du redoublement par les élèves. Et donc le CNESCO et l'IFE ont développé une enquête spécifique sur le sujet. Donc je remercie d'ailleurs, il y a certainement parmi vous des chefs d'établissement, des professeurs qui ont aidé à construire hein, cette étude qui porte sur plus de 5000 élèves. Donc c'est une grosse étude. On ne pensait pas avoir un tel succès. Alors rapidement, ces résultats, puisqu'ils sont originaux et que vous en avez donc ce matin la primeur. Premier résultat, un fort attachement au redoublement, comme pour les enseignants, comme pour les parents. Lorsqu'on demande aux élèves s'ils veulent supprimer le redoublement, 69% des élèves collégiens et lycéens nous disent qu'ils sont contre la suppression du redoublement. On a 80% des élèves qui nous disent le redoublement, c'est une seconde chance. Donc vous voyez qu'on demeure très attaché, on adhère encore largement à cette pratique. Pour autant, et là on retrouve toujours cette ambivalence, donc là aussi on sent que ces acteurs sont prêts à bouger. Pour autant, lorsqu'on leur demande quelle est leur perception sur certaines dimensions qu'on peut qualifier de psychosociales, là, les collégiens et lycéens mettent en avant des effets psychosociaux négatifs extrêmement puissants qu'ils voient liés au redoublement, puisque vous voyez qu'on a quand même 64% des lycéens et des collégiens qui nous disent que le redoublement démotive, et 75% des élèves qui nous disent que ça diminue la confiance en soi. Il y a d'autres questions, vous verrez l'enquête plus en détail, sur le sentiment d'infériorité, le fait de décevoir ses parents, bref, on a tout un ensemble d'éléments extrêmement qui se rapprochent sur ce point-là. Encore sur le souhait d'alternative, là aussi c'est tout à fait net, puisque 67% des élèves sont favorables soit à des stages de soutien pendant les vacances, afin d'éviter le redoublement. Et lorsqu'on a interrogé plus particulièrement les redoublants, ils nous disent que oui, ils auraient préféré, hein, 57%, des examens de rattrapage ou des cours de soutien, ils auraient préféré ces deux solutions au redoublement. Donc on voit bien là qu'on a aussi cet acteur, qui est quand même peu interrogé par la recherche, mais quand même assez central, puisque ici on parle de cet élève qui peut être au redoublement. On voit bien là toujours hein, cette ambivalence, adhésion, mais recherche aussi de solutions, analyse quand même, je trouve, extrêmement pertinente en termes d'effets psychosociaux. Alors, autre point qui doit aussi nous pousser à réfléchir, c'est le vécu du redoublement, hein, par les élèves redoublants. On avait toute une série de questions, j'en ai sorti certaines. On voit bien là encore, et ça reboucle avec la recherche, hein, que l'année du redoublement est perçue par les redoublants comme une année de fort investissement scolaire et un point important, de fort investissement aussi de la part des parents. Ils nous disent à près de 60% que les parents les soutiennent cette année-là. Et cela se traduit pour 70% d'entre eux par de meilleurs résultats. Donc on voit bien là ces effets de court terme qui ont été aussi éclairés par la recherche. Par contre, point qui doit intéresser le jury, il y a des vraies interrogations, mais ça on l'a trouvé aussi sur le terrain, à travers toutes les interviews qu'on a pu faire à l'automne d'élèves redoublants, il y a des vraies interrogations quant aux décisions de redoublement qui sont prises par les élèves eux-mêmes, hein, puisque vous voyez que seuls 44% des collégiens redoublants nous disent que cette situation était juste. Et beaucoup nous disent qu'ils pensent qu'ils avaient le niveau, collégien et lycéen, pour passer dans la classe supérieure. Donc il y avait vraiment quelque chose à examiner autour du cadre dans lequel se prennent ces décisions et de la communication en direction des élèves. Et puis j'attire votre attention sur des effets négatifs, voire très négatifs. Près de 60% des redoublants nous disent que refaire les programmes est ennuyeux. Donc c'est quand même, voilà, ça interroge aussi le jury. Et puis point très alarmant, 35% des redoublants disent que le redoublement les a conduits à avoir envie d'arrêter l'école. Voilà. Donc c'est un point quand même qui n'est pas négligé, c'est un tiers hein, des élèves redoublants. En conclusion, je dirais que, là, vous voyez, on a commencé à décrire tout ce dispositif. Hein, le CNESCO et l'IFE ont travaillé pendant 9 mois déjà hein, sur la préparation de ces séances publiques avec notamment le jury, avec toute une assemblée d'experts, en réalisant des synthèses de littérature, en menant ces enquêtes dont je vous ai parlé. Donc c'est un travail qui est important, qui doit, comme le disait Michel Lussault, nous conduire à examiner le redoublement, mais pas à court terme. Hein, c'est vraiment une démarche de moyen et de long terme. Donc j'espère qu'on sera à la hauteur de ce que demandait Philippe Pradel, qui nous trace bien hein, des voies hein, de moyen-long terme. Ce travail n'aurait pas été possible sans un collectif fort. Je crois que ça, c'est central. Michel est revenu sur ce point. Mais je souhaite réellement remercier l'ensemble des établissements partenaires. Vous avez fabriqué les questions de cette conférence de consensus. Vous avez en grande partie collaboré à l'administration du questionnaire. Et donc, on voit bien là que les conférences de consensus produisent aussi de nouvelles recherches. Donc c'est tout un collectif, hein. C'est un jury, c'est des organisateurs, mais c'est aussi tout un collectif qui s'est mis en marche pour réfléchir autour du redoublement, apporter des solutions. Alors il y a nos séances publiques aujourd'hui, elles sont très importantes. Vous avez vu qu'il y a 2 journées, une journée consacrée, je dirais, plus au diagnostic et une autre sur les recommandations. Sur les recommandations, sur les alternatives de façon générale. Comme le disait Michel, le premier but, c'est le 4 février, cette remise officielle de votre travail. Donc, messieurs, mesdames, les membres du jury, je pense que tout le monde est sous pression et c'est qu'il y a un gros travail à réaliser. Vous êtes d'autant plus sous pression que la conférence a eu énormément de succès. Vous allez voir affluer encore plein de gens, puisqu'en 48 heures, toutes les places étaient réservées. Donc on voit bien là qu'il y a une attente en termes de réflexion. Et puis après, hein, comme on le soulignait, ces recommandations sont le début d'une autre phase hein, que l'on va entamer tous ensemble, une phase de diffusion sous forme d'activités de formation, d'information, de diffusion de ces recommandations dans l'ensemble de la communauté éducative. C'est pour ça que le 4, nous remettrons vos recommandations à l'ensemble de la communauté éducative, à savoir donc évidemment le comité organisateur de la conférence, le comité de pilotage des cycles de conférences et puis le comité consultatif du CNESCO. Donc vous voyez qu'on est au milieu du guet, on attend avec impatience votre travail. Et après, on va, avec cette nouvelle ressource, continuer à mobiliser autour du redoublement la communauté éducative dans son ensemble. Bon travail, bonne séance. Que ces séances publiques vous étonnent et vous permettent d'avancer collectivement.